France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
La crise agricole est toujours là. Les tracteurs ont quitté le devant de l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui même, ils sont encore à Dunkerque pour exiger des contrôles, notamment sur ce qui est importé en France. Ils sont aussi à Lyon et quand on les écoute, ils sont déjà là, au standard aussi. Les agriculteurs, ils nous le disent, personne n'est à l'abri. L'Europe va signer le Mercosur. Combat perdu pour la France, la signature c'est samedi au Paraguay, même si le Parlement européen a encore des choses à dire, nous y viendrons. Les céréaliers sont dans un cumul, mauvaise année, chute des prix. Les éleveurs ont dû faire face à une dermatose bovine. Le salon de l'agriculture qui va ouvrir la semaine prochaine se fera sans les vaches. Les allées risquent d'être bien tristes et peut-être aussi sans joie. Pour compenser, faire passer la pilule du Mercosur. Je jette un regard sur notre invitée, la ministre qui ne doit pas aimer cette formulation, nous y viendrons. Mais pour compenser, des mesures ont été annoncées. Il y a eu l'annonce d'une enveloppe de 300 millions d'abord et puis la loi d'urgence qui devrait intervenir en mars prochain, votée très vite. Nous en parlerons, le détail des contrôles à venir aux frontières pour ne pas laisser entrer des produits qui ne sont pas conformes à nos standards. Nous essaierons aussi de comprendre ce volet-là de la crise. Est-ce qu'on est vraiment capable de tout surveiller et d'avoir confiance aussi dans nos partenaires commerciaux. Il y a peut-être une autre crise que nous aborderons ensemble, celle des œufs, pénurie assez sévère. Trop de demandes dans une période d'acheminement, il est vrai, compliqué pour cause de météo. Mais qu'est-ce que ça dit aussi de nos modèles agricoles quand on n'arrive plus à fournir l'hexagone? Est-ce que la seule réponse finalement est de dire « ouvrons les poulaillers d'urgence, faisons plus aujourd'hui ». Beaucoup de questions, en tout cas, beaucoup d'agriculteurs notamment qui sont là au standard et qui attendent. Allons-y, c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Je ne vous ai pas salué, donc je le fais, Madame Genevard. Bonsoir, merci bonsoir. Beaucoup d'être avec nous. Notre première auditrice s'appelle Charlotte. Elle a une question pour vous. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir Madame la Ministre. Donc, je suis agricultrice dans l'Aisne, je produis des légumes et des céréales. J'ai actuellement des contrôles sur les légumes que je produis. À peu près 350 matières actives sont screenées à chaque fois que je produis un légume sorti de mon exploitation. L'eau potable chez moi, elle est analysée de la même façon. On a dans le département de l'Aisne 150 contrôles qui sont effectués sur les produits qui sont aujourd'hui dans les supermarchés pour toute l'année 2025. A contrario, j'ai sur les 3200 exploitations qui produisent dans le département de l'Aisne, on a eu une ferme sur 5 qui a été contrôlée, c'est-à-dire 600 exploitations. Donc vous voyez qu'on est en distorsion de concurrence par rapport aux prévis du Mercosur, par rapport à ce qui est aujourd'hui produit à l'étranger, avec des matières actives qui sont interdites. Vous avez proposé un premier décret qui allait contrôler des produits exotiques avec seulement l'analyse de 3 matières actives. Comment ça se fait, Madame la Ministre, qu'on n'étend pas ces contrôles sur l'ensemble des produits qui sont aujourd'hui dans les supermarchés et qu'on ne détruit pas aujourd'hui les produits qui ne respectent pas les standards européens?
Merci beaucoup.
On a eu les œufs ukrainiens et ils n'ont pas fait l'objet, avec des analyses très mauvaises, de matières actives qui étaient même interdites en Ukraine et qui n'ont pas été détruites. Alors voilà, je voudrais avoir une réponse.
Eh bien Charlotte, merci beaucoup pour cette entrée en matière. Annie Genevard vous répond, Madame Genevard.
Merci Charlotte. Alors ça c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Ça fait des mois que je demande à la Commission européenne de prendre une décision sur le principe de ce qui est interdit en Europe ne doit pas nous arriver dans les denrées importées. Donc c'est un principe clair, une question de justice, de loyauté dans la concurrence et aussi de santé du consommateur. Comme la Commission européenne tarde à prendre cette mesure pourtant de bon sens et de justice, eh bien j'ai pris la décision d'interdire 5 molécules parmi les plus toxiques qui sont interdites en Europe mais qui ne sont pas interdites dans les denrées importées. Alors vous dites que c'est trop peu. Sans doute, il faudrait-il élargir, et je continuerai à le faire, mais ça concerne les pommes, les poires, les mangues, les avocats, enfin un certain nombre de productions, d'abord qu'on produit sur le sol européen, et il n'y a pas seulement des productions exotiques, et qui sont produites en abondance en France, je pense aux pommes et aux poires, donc rien ne justifie, ça justifie encore moins qu'on importe des denrées avec des substances interdites.
Vous avez dit.
Et je voudrais ajouter simplement une chose très rapidement. Ce matin, j'étais à Roissy, qui est le plus grand hub européen d'importation de denrées, qui sont ensuite dispatchés sur toute l'Europe. Et je crée une brigade de 100 contrôleurs qui vont sillonner tout le territoire national pour aller faire des vérifications, des contrôles, des prélèvements.
100 contrôleurs donc sur l'ensemble de la France, est-ce que c'est des postes qui existent? C'est des postes qu'on déplace? Est-ce qu'on déshabille un pôle pour habiller un Pierre?
Non, on déshabille personne parce que je ne touche pas aux effectifs de contrôle déjà existants.
C'était le sens de ma question.
Mais donc, on vous donnera tous les détails de l'organisation de cette brigade. Mais aujourd'hui, j'en ai fait l'annonce et je veux la mettre en place dans les meilleurs délais, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent.
Parce que ce qu'elle dit, notre amie Charlotte, et on peut l'entendre, c'est « Attendez, moi j'ai l'impression qu'on me contrôle tous les quatre matins et surtout, on contrôle aussi non seulement ce que je produis, mais aussi les produits transformés au supermarché. Forcément, ce qui arrivera du Mercosur passera entre les mailles
non,
du filet.
Mais bien sûr,
est-ce que vous pouvez lui dire, ne vous inquiétez pas, ça ne passera pas en dehors des mailles du filet ou est-ce qu'on ne sait pas dire ça?
Mais on va tout faire pour que ça ne passe pas entre les mailles du filet parce que moi je me suis opposée au Mercosur. Vous savez, ma position a été constante sur ce sujet et notamment pour la question de l'absence de réciprocité. C'était des normes, c'est quelque chose d'inacceptable. Mais j'ai instauré, dans les premières semaines de mon arrivée au ministère, j'ai instauré le contrôle administratif unique. Pas plus d'un contrôle par an et par exploitation. J'exclus les contrôles PAC parce que ce sont ceux qui déterminent le versement des aides PAC.
Puisqu'on était dans les contrôles, avant de retourner au standard, Christelle sur WhatsApp qui dit ceci. Elle est aux Antilles, et c'est vrai qu'ils sont loin et qu'on en parle moins bien, et elle dit ceci. Les Antilles sont en proie du Mercosur déjà avec des ignames de Costa Rica, avec les citrons du Pérou, pour lesquels nous n'avons aucune garantie sanitaire et qui sont vendus moins cher que nos produits, dont certains d'ailleurs sont victimes aussi de chlordécone. Qu'est-il prévu pour les Outre-mer?
Mais les Outre-mer seront soumis à la même nécessité de contrôle des produits importés, bien sûr. Je ne distingue pas les Outre-mer de l'Hexagone, naturellement. Alors,
Christelle s'en inquiète. En tout cas, deux poids, deux mesures à nouveau pour les Antilles, c'est ce qu'elle dit dans la suite de son message. Non, pas deux poids, deux mesures pour les Antilles, Madame la Ministre.
Mais bien sûr. Je suis d'accord avec Christelle. J'en prends l'engagement.
Eh ben, écoutez, elle vous a entendu. Jean-François est avec nous, bonsoir.
Oui, bonsoir à chacun et bonsoir à tous. Bonsoir Madame la Ministre.
Bonsoir Jean-François.
Je vous félicite pour les efforts que vous faites dans votre ministère, malgré les difficultés actuelles mondiales. Moi, je suis de la Drôme et je vous appelle, si vous voulez, pour un ami agriculteur qui a environ 70 hectares. Il s'était agriculteur depuis 3 ou 4 générations, donc les générations précédentes avaient un potentiel immobilier d'environ 5 maisons. Et je dois dire que là, depuis quelque temps, il travaille environ 14 heures par jour, en faisant un peu de polyculture, en faisant de la pomme et de la poire. Et quand il a payé son matériel, les réparations et les personnes qui ramassent les pommes ou les poires, eh ben, il travaille 14 heures par jour et il n'arrive pas à s'en sortir. Il a vendu déjà 2 maisons sur 5 et une 3e maison qui est à vendre pour pouvoir payer ce qu'il doit. Et si vous voulez, est-ce que vous savez combien on lui achète le kilo de pommes et le kilo de poire?
Allez-y, merci Jean-François, j'imagine que c'était la fin de votre question, ça veut dire en tout cas la difficulté...
Non, c'est pas la fin de la question, je posais la question à Madame le ministre, c'est pour savoir si elle sait combien on achète les pommes et les poires de bonne catégorie, et après tri, le kilo.
Mais écoutez, on a dû me le dire parce que je suis allée il n'y a pas très longtemps dans le Rhône. Alors, c'était pas dans le département de la Drôme, mais c'était aussi chez un producteur de pommes et de poires. Et c'est vrai qu'il y a des prix différents par catégorie. Mais ce que je peux vous dire, Jean-François, c'est que la question du revenu, parce que c'est la question que vous posez...
Pardon, Madame la Ministre, vous l'avez le prix, j'imagine, Jean-François, c'est pour ça que vous avez posé la question? Allez-y.
Pour être obligé de vendre des biens.
Mais, et donc, vous l'avez le prix que vous le demandiez à la ministre ou pas?
Oui, tout à fait.
Allez-y.
Madame.
Alors, on vous écoute.
On lui paye entre 30 et 40 centimes au bout de 6 mois après tri.
En tout cas, clairement, bon, c'est un prix trop bas par rapport au coût de production, mais c'est un peu le mal dont souffre l'agriculture française. C'est une question de revenu. D'ailleurs, dans toutes les revendications, la question du revenu est lancinante. Voilà une profession qui travaille énormément. Vous l'avez dit, 14 heures par jour, et ça n'est pas une exception. Je connais beaucoup d'agriculteurs qui travaillent, qui ont des journées harassantes, qui prennent peu de congés et qui ne se sortent pas de revenus. C'est d'une injustice profonde. Et quand ils gagnent un peu d'argent, c'est trop peu pour vivre. Il faut souvent un deuxième salaire à l'extérieur. La conjointe ou le conjoint travaille à l'extérieur. Et il y a quelque chose de profondément injuste, alors même qu'ils remplissent une fonction qui est noble, qui est essentielle à notre pays.
Et en même temps, Madame Genevard, ils le disent.
Qui est de nourrir. Mais on a un problème de compétitivité de notre agriculture française. Trop de charges, trop de normes, un coût du travail trop important, surtout dans le domaine de l'arboriculture où au moment des récoltes on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et en dépit des aides que nous apportons à l'agriculture, eh bien elle est trop entravée pour avoir une compétitivité suffisante.
Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir en arrière sur des normes qui ont été établies, que nous suivons, que les agriculteurs suivent. Est-ce que ça veut dire revenir en arrière aussi sur un certain nombre de produits? Peut-être qu'on ira sur la loi Diplon dans un instant, mais sur l'acétamipride et le reste, est-ce que ça veut dire ça? Plus de compétitivité,
Ça veut dire qu'il faut
Est-ce que c'est juste ça, en fait?
Et ça veut dire un juste équilibre entre les exigences d'un équilibre économique sans lequel les producteurs ne peuvent pas vivre, et le respect d'un environnement qui est leur outil de travail. Et moi, je crois à cet équilibre-là. Et aujourd'hui, la France a des exigences qui sont supérieures à celles de l'Union européenne. Nos principaux concurrents sont européens aujourd'hui, parce qu'ils produisent à des coûts qui sont inférieurs aux nôtres, c'est la réalité. Donc, est-ce que c'est juste? Et pourtant, la production agricole européenne est vertueuse, mais le problème de la France, c'est qu'elle a eu trop souvent le réflexe de la surtransposition, donc elle désagrège, elle dégrade la compétitivité de nos exploitations.
Donc les plus gros concurrents, s'ils sont européens, je pense aux tomates espagnoles, notamment, j'imagine que c'est à ça que vous pensez, des choses comme ça veut dire que le Mercosur, finalement, c'est un poids en plus? Ou est-ce que par rapport à cette concurrence européenne et par rapport aux quantités qui arriveront de toute façon, c'est pas si grave que ça?
Ben, si, le Mercosur, c'est grave pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça amène des volumes importants.
C'est de volume dont je voulais vous parler. C'est-à-dire, est-ce que le volume, de toute façon, qui viendra d'Espagne, qui viendra d'Europe, qui viendra d'ailleurs, sera plus important avec les mesures qui ont été prises que le volume qui viendra des pays du Mercosur?
Ça veut dire que nos principaux concurrents, c'est clair, sur les volumes dans différentes productions, et en particulier fruits et légumes, en effet, sont européens, ou même le poulet polonais, il est issu de poulaillers qui sont plus importants. Vous voyez, en France, il y avait 4 projets d'installation de poulaillers, vous évoquez le manque d'œufs, eh bien, ils ont été retoqués par le tribunal, parce qu'une riveraine ne voulait pas de poulailler trop proche de chez elle. Donc il y a un moment, on peut pas vouloir manger de bons produits français et empêcher qu'ils ne soient précisément cultivés ou élevés.
Mais pas casser toutes les normes non plus, Madame Genevard, ça devient compliqué.
Mais il n'en est pas question. D'abord, l'Union européenne a imposé des conditionnalités environnementales. Il n'est pas question de revenir sur les conditionnalités environnementales. Il n'est pas question de supprimer toutes les normes. Il est question d'interroger leur pertinence au regard des règles qu'appliquent les autres pays européens qui sont nos concurrents.
Mais ça veut dire que le plus grand concurrent, c'est nous, plus encore que les pays du Mercosur.
Ça veut dire que le Mercosur ajoute à cette fragilité. On a la plus grande agriculture d'Europe. On est le premier pays agricole européen. Mais on voit bien qu'on est en perte de compétitivité, donc de vitesse, donc de production. Et évidemment, moi je plaide pour la souveraineté alimentaire. C'est mon devoir, c'est mon rôle. Le jour où un pays ne peut plus nourrir sa population, il la met en risque.
On va écouter Philippe, j'ai une question derrière qui revient aussi au Mercosur, mais je voudrais d'abord qu'on écoute Philippe. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
Ah, formidable. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute.
Merci. Bonsoir Madame la Ministre.
Bonsoir Philippe.
On est encore dans la période des vœux, donc je souhaite que 2026 soit une année de dialogue et pas comme hier soir en fait avec la manifestation pacifique de la Confédération paysanne. J'ai une question sur la DNC, donc la dermatose nodulaire contagieuse, qui, je refais un petit, une petite explication. En fait, c'est une inflammation de la peau. En fait, c'est une grosse acné en fait pour les animaux. Alors je précise, je suis éleveur, hein, j'ai des vaches laitières, donc je connais assez bien ces questions-là. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est une maladie aujourd'hui qui a été utilisée pour se protéger des importations venant de l'extérieur. Et donc, c'est pour ça que vous avez votre stratégie qui est en place avec éradication de l'ensemble des troupeaux, etc. Ma question, à quel moment le ministère va justement reprendre cette maladie pour une maladie sanitaire et strictement sanitaire? Et à quel moment vous allez associer les éleveurs, les vétérinaires qui ont des pratiques différentes basées sur l'immunité des animaux, sur la protection réelle des animaux, pour avancer, parce que de toute façon, cette maladie vectorielle va se développer sur toute la France. Et vous ne pourrez pas continuer en fait à avoir cette stratégie d'éradication qui ne fonctionnera pas. Moi, je n'ai pas peur de la maladie, j'ai beaucoup plus peur aujourd'hui de la façon dont vous, le ministère, vous gérez cette maladie.
Philippe, merci beaucoup. Annie Genevard qui vous répond sur la dermatose.
D'abord, je voudrais commencer ma réponse à Philippe par une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, il n'y a plus de cas de DNC en France et nous n'avons plus de nouveaux cas depuis 10 jours. La vraie question, vous posez en fait la question sur la pertinence du protocole. Alors d'abord, je voudrais dire en préambule que je n'ai pas décidé ça dans le secret de mon bureau et de ma propre autorité. J'ai fait fonctionner, comme il n'a jamais fonctionné aussi souvent, ce qu'on appelle le Parlement de l'élevage, qui réunit des professionnels, des scientifiques, des vétérinaires, tous les syndicats, et qui ont débattu de ces questions. Et c'est ce protocole qui fonctionne dans tous les pays, qui est appliqué dans tous les pays de l'Union européenne, enfin, les rares pays qui connaissent cette maladie, parce que c'est une maladie...
Le protocole, c'est l'abattage, hein, pour l'instant.
Non, c'est pas seulement l'abattage des cas foyers, c'est aussi la vaccination et c'est aussi la restriction des mouvements. C'est un triptyque. Ce protocole, il a été décidé à la quasi-unanimité du Parlement de l'élevage. Donc j'ai consulté. J'ai consulté, mais ce que je voudrais dire, c'est que une maladie dont vous dites que c'est juste une inflammation de la peau, elle est quand même mortelle pour 10% de, statistiquement, hein, pour 10% de l'élevage. On a 16 millions de bovins. Vous voyez, si du jour au lendemain, enfin si en quelques mois, on perd 1,5 million d'animaux, je vous dis pas les effets.
Madame Genevard,
Et puis, il y a une morbidité à 45%. Alors, aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que la vraie question, c'est pas la question de l'abattage. C'est, moi, mon objectif, c'est qu'il n'y ait plus aucun abattage. Et c'est qu'on puisse éradiquer la maladie, comme nous l'avons fait en Savoie, en Haute-Savoie, dans le Rhône, dans l'Ain, dans le Jura. On va demain lever la zone réglementée du Jura et du Doubs, et de la Haute-Saône, et du territoire de Belfort, où il y a eu très peu de cas, 5 cas, mais où on a dû élargir une zone importante. Il n'y a plus aucun cas. Donc voilà, la stratégie, vous dites fatalement, la maladie s'étendra dans tout le pays. La peur de la maladie s'étend dans le pays, mais la maladie, elle est parfaitement maîtrisée aujourd'hui.
Pour l'instant, elle est maîtrisée. On ne sait pas à quel moment elle réapparaît. Il y a beaucoup de
Non. Vous savez, elle a été éradiquée en Grèce. Elle n'est pas réapparue. Elle a été éradiquée dans les Balkans. Elle n'est pas réapparue. On sera certainement obligé de revacciner. Oui, parce que la meilleure protection, c'est la vaccination. Ce que je veux vous dire aussi.
La question des éleveurs, et je ne sais pas si c'est celle de Philippe en creux derrière, mais la question des éleveurs, quand on en a parlé ici même, d'ailleurs, au téléphone sonne, c'est aussi de se demander. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une vaccination de masse qui serait une vraie vaccination totale? La réponse de certains éleveurs étant de dire oui, on est en train de protéger les grands et on sait bien que pour les exportations, dès lors qu'on a été vacciné, c'est plus compliqué.
Non, mais ça, c'est une vision, je dirais, c'est une question sanitaire, c'est pas une question politique. C'est pas une question économique, c'est d'abord une question sanitaire.
Exportation-importation, c'est une vraie question économique. Si on peut plus exporter, c'est une vraie question économique.
Puisque vous évoquez la question économique, je ne veux pas l'éluder. Vous savez, il n'y a pas que des gros élevages. D'ailleurs, l'élevage bovin en France, c'est pas la ferme des 1000 vaches, c'est pas les feedlots américains ou brésiliens. Moi, j'ai vu en Occitanie où je suis allée beaucoup, j'ai vu des petits et des gros élevages, mais même dans les gros élevages, sont des gens modestes qui vivent difficilement de leur activité. Donc, l'exportation, c'est aussi du revenu. Quand vous exportez pour 5 à 10 milliards d'animaux vivants, de viande, de produits laitiers, vous vous rendez compte la perte de revenus pour les éleveurs ? Et tous les éleveurs, on a des... Vous voyez, moi je connais bien le monde de l'élevage, j'en viens. C'est des élevages à rarement plus de 100-150 bêtes, à plusieurs associés. Donc on n'est pas du tout dans des grosses fermes. C'est pas abattre les bêtes pour protéger les gros éleveurs. C'est tellement loin de la réalité.
Après, Mme Genevard, ce qu'on a entendu pendant cette crise de la dermatose, c'est aussi le traumatisme que ça pouvait représenter effectivement pour
terrible.
Certains éleveurs, au-delà effectivement des compensations évidemment derrière, et puis c'est la rupture de confiance aussi, c'est la grosse, y compris avec les vétérinaires, il y a beaucoup de choses à réparer derrière une crise comme celle-là. Quelles sont les leçons qu'on en tire aujourd'hui? Alors, quand on est ministre de l'Agriculture?
Moi j'en tire d'abord la leçon que chaque fois qu'il y a eu un territoire touché, je suis allée. Je suis allée rencontrer en tête à tête, loin des caméras, parce que ce genre de choses se font dans la dignité, dans la confidentialité, dans la discrétion. Je suis allée voir les premiers éleveurs dont les cheptels avaient été dépeuplés, parce que j'avais besoin de leur dire « Votre ministre est à vos côtés, ce que vous vivez est un traumatisme terrible et je serai là à vos côtés pour vous aider ». Vous savez, le nombre de personnes qui m'ont dit mon père, mon grand-père ont connu l'abattage pour la fièvre aphteuse, pour la tuberculose bovine, pour la vache folle. Ça reste dans la mémoire des familles et des villages pendant plusieurs générations. Je mesure ce traumatisme, mais je mesure aussi l'engagement de ces éleveurs qui en Savoie m'ont dit, vous savez, on a accepté l'abattage pour protéger nos voisins.
Annie Genevard, il n'y aura donc pas de vaches au Salon de l'Agriculture. Est-ce que vous le regrettez, au fond? Puisque si vous nous dites que ça fait 10 jours maintenant que, semble-t-il, la maladie est éradiquée, est-ce que ça veut dire que on a poussé, selon vous, le principe de précaution ou pas?
Alors, bien sûr, l'absence de bovins au Salon de l'Agriculture est une grande tristesse, parce que c'est une attractivité très forte. Et le Salon de l'Agriculture, c'est une vitrine pour l'agriculture. J'ai un mot de solidarité pour les organisateurs du Salon, qui y travaillent depuis un an. Vous savez, le Salon, c'est pas l'État, c'est une association qui travaille des mois durant pour offrir aux Français ce merveilleux moment de rencontre avec l'agriculture.
Pardon, alors, vous dites le 21, la semaine prochaine, c'est le mois prochain, c'est le 21 février. Mais du coup, ça fait un laps de temps, ça fait 10 jours qu'il n'y a pas eu de cas. Si tout va bien,
c'est vrai.
21 février, c'est dans un mois. Donc, est-ce que vous dites dommage, en fait?
Je dis dommage, d'autant que la majeure, 9/10 du territoire national est indemne de DNC, qu'on a peut-être 2 millions de bovins qui sont vaccinés, donc qui sont protégés. Mais la peur est plus forte parce que les éleveurs ne veulent prendre aucun risque, mais je pense qu'on aurait pu amener des bêtes sans risque. Mais je respecte cette décision. J'espère qu'il y aura des animaux de toute façon au salon.
Certes,
parce que
il y aura d'autres animaux.
La dermatose ne concerne que les bovins. Et le slogan du salon, c'est venir, c'est soutenir. Ce que je condamne en revanche, c'est tous ceux qui appellent au boycott du salon. Ça, c'est vraiment à un moment où l'agriculture connaît des difficultés. Je ne voudrais pas que le salon de l'agriculture devienne l'otage politique et prendrait en otage l'agriculture et les agriculteurs, et aussi finalement les Français qui aiment venir au salon.
Mais otage politique de qui, pardon?
Il y en a qui appellent au boycott. Il y a des organisations syndicales qui appellent au boycott du salon.
Mais justement, puisqu'on parle d'organisations syndicales, vous l'imaginez, il y a beaucoup de questions autour de ça, ceux que vous soutenez ou que vous soutenez moins, ceux que vous favorisez ou que vous favorisez moins. Voici Aurore qui est à Villefranche-sur-Saône. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir Madame la Ministre.
Bonsoir,
j'aurais
Aurore.
Une question à vous poser au niveau de tout ce qui est syndicat. Donc on a la FNSEA, les jeunes agricoles, la Confédération paysanne et la coordination rurale, dont ces derniers ont tenu des propos assez extrémistes dans le sens où ils menaçaient aussi tout ce qui est organisation qui vient contrôler dans, au niveau environnemental, au niveau des fermes agricoles. Et je voulais savoir au niveau des manifestations qui a lieu dernièrement, j'ai constaté qu'il y avait une différence de traitement au niveau de ces syndicats agricoles. À savoir, il me semble, à moins que la garde à vue a été levée pour les représentants nationaux de la Confédération paysanne. J'aurais aimé savoir pourquoi est-ce que la FNSEA, la coordination rurale, peuvent accéder comme ça librement à la capitale sans qu'ils soient inquiétés alors que la Confédération paysanne est arrêtée.
Merci Aurore pour votre question réponse. Et vous Merci. Êtes porte-parole Aurore de beaucoup beaucoup de nos questions qui sont ici au téléphone ou par mail. Double standard alors selon les syndicats, Madame la Ministre.
Merci Aurore. D'abord, je voudrais dire que je reçois régulièrement tous les syndicats. Ils ont tous mon téléphone personnel, ils m'appellent tous d'ailleurs. Tous me contactent directement pour une chose ou pour une autre, je les traite de la même façon. Nous les avons tous reçus avec le Premier ministre, 2 fois 2 heures en 2 semaines. Ils ont été reçus, ils ont été écoutés. La différence, quand vous faites une manifestation, qu'elle soit agricole ou pas d'ailleurs, il y a une règle, c'est le droit. Il faut déclarer. Donc, la coordination rurale a refusé de déclarer les manifestations. Les forces de police ont cherché à empêcher les tracteurs d'entrer dans Paris. Ils n'y sont pas parvenus parce qu'un tracteur, ça ne s'empêche pas comme un véhicule léger. La FNSEA avait déclaré sa manifestation. Quant à la Confédération paysanne, hier, je voudrais dire qu'elle a tenté de... Enfin, elle est entrée dans un bâtiment public pour y tenir une manifestation qui n'avait pas été déclarée, donc pas autorisée. Moi, je voudrais aussi soutenir mes agents, parce qu'ils ont été bousculés, alors qu'ils ont une fonction qui est de contrôler les entrées dans les bâtiments publics. Ils y sont entrés par ruse, ils ont été piégés pour une manifestation qui n'était pas déclarée. En plus, sur un sujet pour lequel je me bats en permanence, la reconnaissance de la PAC de l'Outre-mer, qui s'appelle le POSEI. Donc, les forces de l'ordre sont intervenus, alors même que je n'étais pas en mon ministère, j'étais au banc. Alors, quand même, je voudrais dire, Aurore, qu'au moment même où la Confédération paysanne et les filles, parce que ils sont très proches les uns des autres, il y avait là des députés et les filles, au moment même où ils manifestaient, ils tentaient de censurer le gouvernement, privant ainsi les agriculteurs de 300 millions d'aides que je m'apprête à délivrer dès lors que nous aurons un budget. Donc, je m'excuse, mais là, on est vraiment
privé d'aide,
limite de la cohérence.
Ça veut dire jusqu'à quel point ils vous ont privé, vous le dites, ils ont privé d'aide. Qu'est-ce que ça veut dire?
Non, ça veut dire que s'il n'y a pas de budget, si on avait été censuré à la demande de LFI, bien sûr. Là, il n'y avait plus de gouvernement, il n'y avait plus de budget, il n'y avait plus les aides que je m'apprête à délivrer dès lors que nous aurons un budget.
Christopher est dans le Jura. Bonsoir Christopher.
Oui, bonsoir.
Ou vous êtes Christophe en fait, Christophe ou Christopher?
Christopher,
allez-y, on vous écoute.
Moi, je suis un produit importé parce que je suis d'origine anglaise. Je suis venu m'installer pour la vie en France et je suis maraîcher donc dans le département du Jura. Et pour rebondir sur ce qui a été dit au cours de l'émission, il y a des choses que je n'arrive absolument pas à comprendre, à savoir cette histoire de souveraineté alimentaire. Depuis le Covid, on en parle énormément, c'est extrêmement important. Et souvent dans la phrase qui vient après, on parle de compétitivité. Et je voudrais comprendre comment les politiciens aujourd'hui imaginent concilier ces deux aspects, compétitivité du monde agricole et souveraineté, sachant que d'un côté la compétitivité, on dit qu'elle n'est pas au rendez-vous, mais les fermes françaises sont plutôt compétitives si on les compare à quelque chose d'égal. Si on compare une ferme française à une ferme en Amérique latine ou peut-être en Afrique, on est moins compétitif. Mais on a nos normes sociales, etc. Tout ça, vous le savez. Donc, on nous dit qu'on n'est pas compétitif et qu'il faut restructurer tout ça, et en même temps qu'il faudrait qu'on ait une meilleure souveraineté alimentaire. Mais peut-être que finalement, un petit peu de protectionnisme, même si c'est un gros mot, aiderait à consolider les fermes françaises et à les protéger et les rendre plus compétitifs. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ce Mercosur va améliorer notre souveraineté alimentaire? Il me semble que c'est une grosse blague.
Merci Christopher. Comment le Mercosur améliore notre souveraineté alimentaire, Madame la Ministre?
Aucunement. Moi, je me bats, je me suis battue contre le Mercosur et j'espérais disait que la France s'opposerait au Mercosur, elle l'a fait, et j'ai plaidé en ce sens pendant des mois.
Sauf que la bataille est perdue maintenant.
La bataille n'est pas perdue, le combat n'est pas achevé, puisque le Parlement européen va avoir à se prononcer. Et moi, là où je vous rejoins, Christopher, c'est que il y a une notion, je dirais pas de protectionnisme, mais de patriotisme alimentaire. Et il y a un acteur majeur de ce point de vue-là, c'est le consommateur. C'est le consommateur qui doit aussi arbitrer dans ses choix, et c'est aussi la grande distribution. Lorsqu'elle fait des produits d'appel sur des denrées importées, des prix d'appel sur des denrées importées, elle flèche l'acte de consommation vers du produit importé. Donc c'est un enjeu, la souveraineté alimentaire, qui ne concerne pas seulement les agriculteurs et leur compétitivité, c'est aussi un enjeu qui concerne le consommateur et le distributeur. Maintenant, c'est la question de la compétitivité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que nos agriculteurs puissent vivre de leur travail et de leur production. Donc, on a agi. Egalim, ça a été quand même une loi importante qui interdise de vendre à perte, mais on voit bien que les équilibres sont fragiles parce que les contraintes sont fortes, que les intrants sont chers. Je prends l'exemple de la taxe carbone qui va peser sur les engrais et donc sur les grandes cultures. Aujourd'hui, les grandes cultures ont des coûts de production qui sont supérieurs à la vente de leur production. Donc, c'est ça la compétitivité. C'est pouvoir vivre de son travail. C'est quand même une aspiration légitime.
Vous parliez de consommateurs tout à l'heure. Il y a beaucoup de questions aussi autour de ça. Les consommateurs que nous sommes ne devraient-ils pas consentir à accorder un peu plus de leurs revenus aux achats alimentaires ? Voici aussi Monique qui est avec nous. Bonsoir Monique.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, moi je voudrais d'abord rappeler à la ministre que la France n'a pas voté l'adhésion à l'Union européenne, donc quand la France n'accepte pas certaines propositions de l'Union européenne, elle arrive toujours à s'en sortir.
L'adhésion, on l'a votée. L'adhésion, on l'a votée. C'est après, effectivement, que... Mais je vous en prie, finissez, voilà. Monique, je vous en prie.
Et ce que je veux savoir, moi, c'est qu'en tant que consommateur, je veux savoir qu'est-ce que la ministre s'engage à mettre en place pour que je sache le produit qui arrive du des pays du Mercosur. Je veux savoir l'origine du produit, comment il a été élevé, etc. Et je veux savoir au ministère, ils ont déjà réfléchi à ça, et qu'est-ce qu'elle s'engage à faire.
Merci Monique pour votre question. Est-ce que je peux rajouter une petite question à côté de celle de Monique ? Parce que sur les produits, les bovins, les poulets, etc., qu'on achète à la pièce, si je puis dire, on peut le voir, on sait, parce que le boucher nous dit quelle est la provenance. Donc ça, c'est facile. C'est beaucoup plus difficile dès lors qu'il y a un début de transformation. Est-ce qu'on est capable d'agir et de montrer sur les produits transformés ?
Moi, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, et même si les dispositions en matière d'affichage sont sous le réglementation européenne, moi je rejoins tout à fait Monique. Je pense que le consommateur doit savoir d'où viennent les produits qu'il achète. Et vous voyez Monique, il y a un acte délictueux que je vais combattre avec la brigade de contrôle que je mets en place, c'est la francisation, c'est-à-dire prétendre qu'un produit est français alors qu'il a été frauduleusement francisé, c'est-à-dire qu'il vient d'un pays tiers, il vient d'un pays étranger et par une manœuvre frauduleuse et étiquetée comme étant un produit français. Et ça, c'est absolument scandaleux et c'est un délit qui doit être poursuivi. Et je pense qu'on a des progrès à faire en matière d'étiquetage. On en a fait, par exemple, quand vous allez dans un restaurant, Monique, le restaurateur a l'obligation de dire d'où vient la viande, par exemple. Alors, il faut qu'il l'affiche, il faut que le consommateur, que le client puisse le savoir. Je pense que dans les produits transformés, nous devrions avoir l'origine des trois ingrédients principaux. C'est l'origine France, et je pense que c'est un combat qu'il nous faut mener, parce que c'est une demande qui est tout à fait légitime. Et vous avez sans doute vu que beaucoup de grandes surfaces, beaucoup de collectivités locales se sont engagées Finalement, le Mercosur a provoqué une sorte de réflexe de sauvegarde avant l'heure, avant l'application. Beaucoup de structures disent bah, « nous, on s'engage à ne consommer et à ne cuisiner que de la viande française, soit dans les cantines scolaires, soit dans les hôpitaux. » Et je trouve que c'est un réflexe qui est très sain.
Est-ce que vous pouvez quand même, Annie Genevard, nous réexpliquer, au fond, comment les choses vont se mettre en place? Parce que la signature, elle va avoir lieu au Paraguay avec Ursula von der Leyen, ce sera samedi. En effet, il y a mardi un vote du Parlement européen, mais c'est un vote pour la saisine de la Cour de l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'à partir de samedi, de toute façon, on est d'accord provisoirement, peut-être, mais le Mercosur est au jour 1. Ça commence.
Alors, le Conseil des chefs d'État s'est prononcé majoritairement en faveur. On a essayé, la France a pris le lead d'une minorité de blocage, nous n'y sommes pas arrivés. Il y a 27 États souverains, c'est comme ça, et sans doute est-ce bien ainsi que les États soient souverains dans leurs décisions. Nous aurions aimé qu'un maximum d'États s'opposent au
Mercosur. Vous avez perdu la minorité de blocage, perdu l'Italie en route, etc. Mais la mise en place,
maintenant,
c'est le
Parlement qui va avoir à se prononcer le 20 ou le 21
là, c'est mardi.
Sur la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne sur la légitimité de la scission de l'accord. C'est un peu technique, je m'en excuse auprès des auditeurs de France Inter, mais est-ce que, au fond, les modalités d'acceptation de l'accord du Mercosur sont conformes au texte européen. C'est la question qui va être posée aux parlementaires. Et donc, ils vont y répondre.
Faut-il y avoir saisine ou pas? Les parlementaires vont voter. Donc, s'il y a saisine, donc il y aura une décision qui viendra derrière. Ma question, c'était, est-ce que, en attendant, c'est parti pour le Mercosur à partir de maintenant?
Je ne sais pas. À ce moment où je vous parle, si l'application sera provisoire ou non. Moi, en tout état de cause, ce que je peux vous dire, c'est que je jugerais que c'est vraiment en contradiction avec la démocratie qui doit inspirer le fonctionnement des institutions européennes. C'est au Parlement de se prononcer maintenant. Il va se prononcer à une date qu'on ne connaît pas sur la ratification ou non de l'accord. Et moi, je considère qu'aucune application, même provisoire, de l'accord ne devrait avoir lieu avant que le Parlement européen ne se soit prononcé. Sans quoi, ce serait une forme de trahison de l'esprit même qui devrait prévaloir dans nos institutions européennes.
Annie Genevard, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de nos auditeurs. Merci à tous pour vos nombreuses questions, toujours sur ces sujets-là. Merci aussi à toute l'équipe du 18-20 pour la jolie semaine, comme d'habitude.